C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrouladi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Guillermo Guiz.
Bonjour.
Tanguy Passion, on sera là tout à l'heure. Et notre invité est Marie Gillard.
Bravo.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Avant que nous parlions de ce festival du Paris Court devant... Du Paris Court devant,
la virgule, faut...
ouais, parce que la Paris Court devant Île-de-France, ça veut rien dire. Paris Court devant Île-de-France qui débute aujourd'hui et qui se terminera le 21 novembre. Je voudrais simplement vous remercier, vous qui nous écoutez, qui nous écoutez de plus en plus nombreux. C'est la 4e saison de la bande originale et c'est le record.
La saison 3.
Et c'est le record historique d'audience. Jamais nous avons fait une si bonne rentrée. Vous êtes plus d'un million 670 000 à nous écouter tous les jours. Donc merci pour cette fidélité. On n'en est pas digne et on continuera évidemment de vous gruger, de
c'est bien,
et de vous faire croire qu'on est au courant de tout et qu'on sait tout et que certains sont drôles autour de cette table.
Pas ça, hein. Ils sont pas dupes.
Non, mais on est ravis en tout cas. Voilà. Et merci à ceux qui travaillent dans l'ombre. Et qui ont des problèmes personnels, c'est pour ça que je ne cite pas leur nom de famille également. C'est un travail d'équipe, malgré ce qu'on peut croire.
Et merci aux autres de perdre des auditeurs aussi.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr, si jamais. Merci les gars.
Merci de nous les laisser, ces auditeurs. Parlons donc de vous, Marie Gillin. Vous, vous aimez les courts-métrages, j'en ai même réalisé un de court-métrage, mais qui ne sera pas au festival, ou vous le présentez quand même?
Non, je le présenterai dans le cadre d'un... je sais pas comment.
Masterclass.
Un genre de. Oui, qu'on appelle une masterclass. Bah c'est oui. Un peu pompeux, mais.
Non, mais il faut assumer.
Mais non, je vais le présenter, oui, mais il est évidemment pas en compétition.
Ça serait, oui, ça se verrait.
Bah oui.
Et la présidente du jury va se remettre le prix. Donc, vous êtes la présidente de ce jury, 13e édition de ce festival Paris Court Devant, Île-de-France, qui est quand même dommage. C'est les endroits, le peu d'endroits où on peut voir les courts-métrages. J'adore les courts-métrages. On n'en voit plus dans les salles de cinéma, il y a des pubs. On en voyait avant, il y avait des émissions consacrées sur des chaînes de télévision.
On le voit sur France 2. Attends, il y a des courts-métrages. Moi, je
crois avoir vu. Il faut les repérer, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y avait une soirée spéciale.
Le vôtre a été diffusé.
Mais c'est ça que ça sert les festivals.
Oui,
il y a des projections.
Est-ce que tout le monde peut y aller?
Tout le monde peut y aller et c'est gratuit en plus.
60 séances gratuites, 135 films en compétition, 35 pays représentés. Il y aura un ciné-concert en ouverture, une soirée spéciale série, des jours de découverte également, les nouveaux écrans, les nouveaux talents, des rencontres professionnelles dont la vôtre après la projection de votre court-métrage. Il y a une définition du court-métrage, c'est à partir de quelle minute on devient un moyen-métrage? C'est la 20e minute, c'est ça?
Alors là, vous me posez une colle. Je sais que les courts-métrages dans la sélection ici doivent faire maximum 26 minutes. Alors je ne sais pas exactement.
Ah, court-métrage partir... maximum 26.
Voilà.
D'accord.
Ouais, je ne sais pas quand on rentre dans la classe du moyen.
C'est déjà
un épisode de série parfois.
Ouais, c'est long, ouais. C'est long 26 minutes, mais c'est parfait. Quel est le premier souci que l'on rencontre quand on fait un court-métrage, vous l'ayant vécu de l'intérieur? C'est le financement, c'est de convaincre les équipes de venir, c'est le bénévolat, parce qu'on a l'impression que ceux qui font des courts-métrages sont bénévoles généralement.
Alors moi c'est un petit peu difficile de répondre de façon générale, parce que mon premier court-métrage, j'ai eu vraiment de la chance puisque je l'ai réalisé dans le cadre des Talents Cannes à Dami. Donc on vient un peu vous chercher, c'est vraiment les conditions optimum, parce que voilà, les courts-métrages ils sont financés, donc le chemin classique du court-métrage est évidemment beaucoup plus long. Donc c'est vrai que ce sont
des films. Vous avez conscience de votre privilège.
Oui, c'est des films qui sont courts, mais c'est des films à part entière et il faut autant de temps pratiquement qu'un long métrage à être financé, les régions, voilà, les commissions, etc.
Ce qui est le plus dur, donc, à part le financement, c'est l'écriture, c'est l'idée, c'est le point de départ, c'est le pitch, c'est d'avoir l'idée qui ne ressemble pas à une autre idée.
Raconter court.
C'est ça.
Raconter court, mais raconter une histoire. Alors, moi, je sais que quand j'ai fait mon court-métrage, forcément, je dis toujours, non, mais attendez, c'est un petit film de 13 minutes, et ça me fait plaisir, parce que souvent, on dit, mais non, il n'y a pas de petit film. Parce que, d'une certaine façon,
vous parle sur ce ton-là?
Non, mais les plaisirs qu'on rencontre sont les mêmes. Après, ça dure moins longtemps. Les emmerdes sont les mêmes.
Et ça dure plus longtemps.
Non, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point, pour un film de 13 minutes où on a 3 jours de tournage et finalement, voilà, le temps de post-prod est moins long, à quel point ça prend toute la tête, toute l'énergie pendant des mois. Donc, je me suis dit, si le jour où je ferai un long métrage, je pense que ça doit être invivable pour son tournage.
Ça décourage un peu ou pas, sincèrement?
Non, ça décourage pas. Je trouve au contraire, c'est encourageant, moi, quand je parle de l'idée d'en faire un un long, on me dit, mais tu sais, finalement, c'est la même chose, sauf que voilà, ça dure plus longtemps, mais c'est vrai qu'écrire un court-métrage, il faut l'écrire quand même, il faut le sortir après.
C'est une école, c'est le passage obligé avant le long-métrage, c'est une évidence. Tous les grands réalisateurs ont d'abord fait des courts-métrages.
Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des réalisateurs qui sont très fervents des courts-métrages, d'autres qui n'ont pas fait de courts-métrages, qui sont passés directement au long.
Ah, vous dire qu'il y a des réalisateurs qui ne font que des courts-métrages?
Il y a des réalisateurs qui font surtout des courts-métrages, qui aiment l'exercice. D'accord. Moi, je dois dire que j'ai adoré cet exercice parce que c'est vrai que ça prend moins de temps et c'est autant de passion, autant d'engagement. Et voilà.
Et voilà. C'est un festival. Vous êtes présidente d'un jury. Il y a donc des jurés comme Simon Abkarian, Mona Ayash, Abdel Jaffri, Antoine Rhin et Coralie Russier. Qui dit festival dit prix. À la clé, qu'est-ce qu'il y a à gagner?
Alors nous, on décerne.
À part la reconnaissance.
Alors, on décerne, nous, plusieurs prix. Le Grand Prix, il y a un prix spécial comédie. Ça, je trouve que c'est chouette de le souligner parce que souvent, les comédies, elles peuvent être un peu snobées dans les festivals. Mmh. Et là, les comédies ont vraiment leur place. C'est très, très éclectique. On voit aussi bien des films d'animation que des documentaires, des films de tous les horizons et de tous les pays. Donc, nous, on décerne pour des films à production française, prix d'interprétation. Je sais que c'est... Il y a la reconnaissance d'être dans un festival qu'on appelle de catégorie 1, hein, et qui permet aussi aux réalisateurs et aux producteurs d'avoir des points qui leur permet une aide à la production pour leur prochain projet. Donc c'est assez important. Mais au-delà de ça, c'est...
Il y a de l'argent, enfin il y a une location ou prêt de matériel d'une valeur de 15 000 euros, je crois, pour celui qui a le Grand Prix, c'est-à-dire pour lui permettre de pouvoir travailler.
Voilà. Mais au-delà de ça, c'est quand même une carte de visite vachement importante d'être dans un court-métrage, d'être dans un festival de court-métrage. Déjà d'être en sélection, ça donne une visibilité.
Comme les prix d'interprétation, où il n'y a pas forcément une dotation, il n'y a pas d'argent, mais il y a le fait d'exister et d'être reconnu, à défaut d'être connu. C'est ça la gymnastique. On va continuer de parler de ce festival qui a lieu du 16 novembre. Ça ressemble à demain.
C'est aujourd'hui.
On est déjà le 16.
C'est l'ouverture ce soir.
Mais le temps passe à une vitesse. Mais c'est dingue. Et c'est jusqu'au 21 novembre, jour où justement vous présenterez mardi prochain votre masterclass à 17h au Grand Auditorium. C'est-à-dire d'abord la projection de votre court-métrage qui s'appelle Timing. Extrêmement drôle. Avec un poster que je rêverais d'avoir. Je ne sais pas où le mettre par contre.
Faut pas le faire tomber.
Faut bien le faire tomber en tout cas. Tout est là-dedans. On va en parler dans quelques instants. Que c'est vous qui l'avez écrit ce court-métrage et qui l'avez réalisé sans y être. Ou alors il y a un caméo super crédit que j'ai pas vu.
Je fais une silhouette d'une actrice avec des lunettes noires parce que j'avais demandé à plein de copines actrices, mais bon, c'est normal, elles m'ont dit oui, on viendra, juste pour faire de la figuration avec des lunettes, donc finalement je l'ai fait.
D'accord. Bah,
c'est pas vous sur le dit poster, non c'est pas...
Non, mais ça va pas,
on peut poser la question.
Mais ça non. va.
Écoutez,
pas.
En même temps, c'est un élément de vente. Pourquoi pas
Ok, prête à tout pour réussir. Allons-y, Timing. Marie Gillin est notre invitée. J'espère que vous avez bien compris Tom, au-delà de votre vulgarité.
Ouais.
Pourquoi Marie Gillin était là?
Pour le festival de court-métrage Paris Court Devant et pour Timing, voilà, sélectionné au Talent Adami à Cannes, qui est votre court-métrage qui parle des castings. Oh putain, les castings. Est-ce qu'il y a un truc plus relou au monde que ça? Pour bien comprendre.
Nous, on sait pas, faut nous expliquer.
Je vais vous expliquer. Pour bien comprendre, j'ai l'impression d'être une candidate du bachelor, mais tu dois convaincre sa mère d'abord. Voilà, on te fait venir. T'as le directeur de casting, qui t'accueille. Il tutoie, comme si vous connaissiez depuis 1000 ans. Ou alors, il y a beaucoup de mépris. C'est au choix. Ça dépend du directeur de casting. Soit t'es son meilleur ami, soit t'es une baguette de pain. Et j'ai tout fait. Les castings les plus précis, comme les castings les plus flous. Alors, un casting précis, par exemple, il y a un rôle, un texte à apprendre. On t'explique rapidement la psychologie du personnage et c'est parti. Et il y a les castings flous où on t'appelle et on dit alors le réel c'est pas trop encore ce qu'il veut mais tu peux venir. Traduction, t'es peut-être en train de perdre ton temps parce qu'il sait pas encore s'il veut un grand Renoir de 2010 ou un nain roux. Mais viens, voilà. Il y a quelques semaines j'ai passé un casting, j'arrive, le mec il m'ouvre la porte et il me dit c'est bon le texte. Je fais oui, j'ai appris le rôle de Pierre et tout. Il me fait quel Pierre? Non, toi c'était Bernard. Donc là tu fais de l'huile d'olive, t'as appris un texte mais qui est pas le bon. C'est parce que entre la prod, le casteur, ton agent, les boîtes mail et le jour J, il y a une faille spatio-temporelle. Sauf que le con qui est au front, c'est toi. T'es un tirailleur sénégalais. Franchement, t'as l'impression d'arriver au bac de français à l'oral. Et la prof a dit, alors, est-ce que vous pouvez me parler du bateau ivre d'Arthur Rimbaud? Sauf que toi, c'est pas dans ton programme. Et tu es dit que tu fais un bac STG. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de filière. Si vous pouvez me parler de Oui, oui, et le crayon magique. Autant pour moi, voilà. Donc, nouveau texte à apprendre, directeur de casting sympa. Bon, bah, je fais passer le mec après toi avant. Comme ça te laisse 10 minutes de plus. Bah oui, bah, bien sûr.
Sympa.
Bah oui, parce que moi, je suis venu choper un rôle dans ton film. Pas pour faire une épreuve de Fort Boyard. 10 minutes, sans déconner. Et puis, ce qui est très agréable, c'est le casting en lui-même. T'es d'abord dans une salle d'attente avec deux, trois gars. T'as le mec qui se refait le texte à haute voix. T'as celui qui écoute de la musique pour se concentrer, mais sans casque. Voilà. En gros, t'es dans le métro. Voilà. C'est limite s'il n'y a pas un Roumain qui passe avec une coupelle et un accordéon. Et on se regarde tous de travers. Dans la salle d'attente. Alors, franchement, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit aucun de nous, au final. C'est ça, la finalité. Et puis la porte s'ouvre, tu rentres dans un bureau blanc, t'es éclairé au néon, celui qui donne la réplique, il pense qu'il joue mieux de toi, alors c'est le stagiaire de troisième du directeur de casting, il sait pas lire. Et toi, avec tout ça, tu dois être le meilleur. Et après, on se plaint de l'état du cinéma français, sans déconner. Alors je vous rassure, j'ai pas eu le rôle. Je suppose, parce que le directeur de casting doit toujours me rappeler. Et comme c'était pour le film Knock, et que j'ai vu des affiches dans le métro, j'ai un vieux doute.
Non, bref, je vais appeler.
Bravo d'avoir si bien raconté le stress des castings, Marie, dans votre court-métrage. Une petite pensée quand même à tous ceux qui ont raté le casting de votre film sur les castings. Parce qu'à mon avis, il y en a deux, trois qui doivent avoir une petite envie de suicide. Mais au moins, ça fera plus de place pour les prochains castings. Bonne journée.
Oh non.
Tom Villa, merci Tom.
La bande originale.
Oh, l'humour noir pour finir.
Et bonne journée.
Ouais, c'est bonne journée. Chaud devant.
Il a pas tort.
Vous n'avez pas passé de casting. Vous n'avez pas été dans des salles d'attente.
Bien sûr que si.
À être traité comme la comédienne dans le vôtre, si.
Si si si.
Il y a une part autobiographique dans votre court-métrage.
Oui, il y a une part autobiographique et parce que. Pour les gens qui nous écoutent, c'est le parcours de, on va dire, de deux comédiens qui vont passer des essais pour un film.
Vous avez raison, soyons précis. Oui. Une comédienne maman qui est dans le stress de la
Ventoline,
merci, pour son enfant. Garde partagée, visiblement, c'est la semaine où le père devait s'en occuper, mais il peut pas s'en occuper. Bref, elle est en train de stresser. Elle arrive à un rendez-vous chez un directeur de casting, odieux visiblement comme tous les directeurs de casting, si je comprends les messages
pas
que
tous,
vous faites passer.
Pas tous,
mais
pas tous.
Pas mal.
Comme mais celui-là, oui.
Je vais rappeler Stéphane Funkinos pour voir si vraiment il est visé ou pas dans l'histoire. En tout cas, celui dans votre court-métrage est odieux. La pauvre standardiste qui joue sublimement bien, d'ailleurs totalement dépassée par les événements. Elle est. Alors je sais pas parce que j'ai deux noms de filles. Est-ce que
alors
c'est
la standardiste,
Juliette
c'est
Doucet
Juliette Doucet et la comédienne bien. C'est Elisa Rusk.
Voilà. Qui, elle joue toutes les deux extrêmement
et
bien.
Et Martin Darondo et Félix Martinet.
Voilà qui est dit pour les quatre comédiens principaux de ce court-métrage. Elle se retrouve donc dans une salle d'attente, assise sous un immense poster d'une femme nue qui ne fait que présenter son derrière.
Vous ne parlez pas de la chute, hein, quand même, Nagui.
Je ne parle pas de la chute.
Oui.
Je parle pas. Non, le tableau est accroché.
Oui, voilà.
Il n'y a pas de chute. Et donc, elle est choquée par ce poster. Non, je parle de ça parce que il y a la notion de femme-objet, justement, mm-hmm. dans ce poster. La notion de fille qui attend et qui est traitée comme une espèce de numéro qui va même être cramée par un top modèle qui va arriver en short moulant, donc évidemment qu'elle jugera plus mignonne qu'elle, qu'elle traitera de pétasse en disant évidemment elle va passer devant moi alors que ça fait 20 minutes que j'attends, j'existe, et elle va monter dans les tours et s'énerver de plus en plus. Cette situation-là, cet énervement, ce stress aussi de celui qui répète son texte dans la voiture avec son frangin et qui essaye de trouver le costume de
le chevalier,
la veste de l'emploi pour avoir le rôle. On a le sentiment que tout se joue à quelques secondes près. La vie de ces êtres humains se joue à juste un oui, à un regard, à une main tendue, et qu'ils sont méprisés, maltraités, en tout cas par ce métier.
J'aimais bien cette idée de ce timing dont on est vraiment dépendant quand on est comédien. C'est que, au-delà du talent et du professionnalisme, il faut être là au bon moment pour rencontrer la bonne personne, ouvrir la bonne porte. Et que finalement, notre temps à nous, on en dispose que très rarement. Ouais. C'est-à-dire qu'on dépend toujours des agendas, quand on doit faire des essais. On vous appelle trois jours après, vous devez apprendre des essais où il y a 10 pages de texte à apprendre. Donc il faut toujours être au taquet, il faut toujours être hyper dispo, hyper en forme, hyper happy. Et donc,
sans trop savoir ce que l'autre veut, en plus. C'est-à-dire, on ne sait pas si ceux qui sont de l'autre côté du petit caméscope en train de vous filmer, ce qu'ils cherchent réellement. Donc
oui,
on puis essaie ceux, de, vous essayez de proposer.
Et puis ceux qui sont derrière leur caméscope, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leurs emmerdements.
Bien sûr, bien sûr.
Vous avez un rendez-vous
ils
à 14
heures. Ils ont la pression, j'imagine, du réalisateur aussi.
Ils ont la pression, ils sont en pleine digestion. Donc
ça va jusque-là.
Donc il y a plein de paramètres autres que le talent.
Et c'est violent, parce qu'en réalité...
Non, est-ce que c'est toujours violent, surtout
en tout cas, dans notre court-métrage, ce qui est violent, en fait, c'est de sentir que cette jeune comédienne qui vient travailler parce qu'elle en a besoin, est à la fois la victime de la standardiste, parce qu'elle-même est la victime, en fait, du directeur de casting.
Qui lui-même doit être la victime
de quelqu'un du réalisateur. Et donc, il y a une forme, comme ça, de violence par ricochet. On se demande jusqu'où ça va aller, puisqu'elle finit, elle, au téléphone, par s'en prendre aussi à son ex-conjoint, et à la fois à la standardiste. Donc, il y a un retour de la violence, qui est une sorte de boule de feu qui part et qui revient, quoi. C'est
l'effet domino.
Oui, puisque j'aimais bien, c'était de prendre, par exemple, cette fille cette actrice qui est encore très jeune, mais qui a sa vie à gérer, qui a son fils, qui est asthmatique, etc. Et d'arriver à un moment où c'est vraiment la goutte d'eau dans sa vie. C'est-à-dire que là, c'est le jour où il faut pas mal lui parler. C'est le jour où elle ne peut pas attendre. Et donc, voilà, ça va déborder.
C'est une question de timing. Ouais. C'est ça. Je reçois un texto à l'instant de Stéphane Fuenkinos.
Directeur de casting.
Stéphane Fuenkinos, donc. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais pourquoi Stéphane Fuenkinos?
Parce que tout à l'heure, tu parlais de directeur de casting
et tu
disais tout le mal que tu pensais. Je dis, la prochaine fois que je verrai Stéphane, je dirai ce que tu dis. Et Stéphane, que nous embrassons. Et je rappelle que le film avec son frère
David, Karine Viard,
est à voir, absolument à voir. Une Karine Viard formidable.
Ouais,
il répond, il dit, non, Nagui, je ne me sens pas du tout visé par Tom Villa. Il y a un smiley qui arrive derrière. Hein. Mais j'ai de très bons souvenirs de casting avec Marie Gillin, que j'embrasse.
Oh, bah oui. Voilà, Terence Malick, tu te rappelles?
Donc il vous embrasse.
Oui,
donc,
on sait qu'à 11h20, il travaille pas.
Merci. Réponds, Stéphane, on verra.
En tout cas, tout est une question de timing. C'est pour ça que vous avez appelé comme ça. C'est vraiment. Il y a aussi l'effet papillon. C'est être là au bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui va, à quel moment dans la vie?
Et puis finalement, c'est aussi assez léger parce qu'il y a toujours quelque chose de très cocasse aussi.
C'est drôle.
Voilà, c'est très cocasse. Mmh. Le métier d'acteur est cocasse. Moi, il y a une scène dans mon court-métrage, mais que j'ai vécu, où on se retrouve chez Ikea, au rayon literie, en train de faire répéter le texte à un conjoint, et on est là, on est complètement dans une bulle, et on est au rayon literie chez Ikea, donc c'est cocasse.
Et l'inverse, c'est-à-dire de voir passer justement la bimbo qui se pointe, avec le directeur de casting, qui d'un coup joue les séducteurs en disant, mais qu'est-ce que tu es belle, toi, je t'en prie, passe, et qui grille tout le monde, toute la salle d'attente, comme ça aussi, vous l'avez vécu, on parle beaucoup de harcèlement et heureusement qu'on en parle d'ailleurs en ce moment, mais ce sentiment-là que l'enveloppe, le physique peut par moment influencer des personnes et pas le talent recherché pour le film.
Bah, je me rappelle dans l'appât de Bertrand Tavernier, il y avait une phrase que mon personnage disait, c'est je suis jamais celle qui cherche. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le métier d'acteur, en réalité, on n'est pratiquement jamais choisi. On n'est jamais l'élu, sauf une fois de temps en temps, exceptionnellement. Mmh. Et donc, c'est un peu le lot de nos métiers d'acteurs. Et c'est hyper frustrant. C'est
oui,
qu'on passe notre temps
à ne pas être
désiré. Jusqu'au moment où tout d'un coup, il y a des brèches. Moi, j'ai l'impression que dans ce métier, il y a des brèches. C'est comme des portes qui s'ouvrent. Et alors, il faut se jeter dedans. Donc voilà, moi, ça m'amusait de le traiter avec humour, mais en même temps, avec une évidemment une profondeur, parce que moi j'ai beaucoup de tendresse pour les acteurs et je parle pas que de moi, j'ai plein d'amis acteurs et peu importe
les actrices sont en danger dans ce métier? Est-ce que les actrices qui cherchent justement ce désir-là, dans le regard, il y a plus d'hommes qui réalisent que de femmes, malheureusement on n'est pas là non plus dans la parité, est-ce qu'il y a des situations d'équivoque qui peuvent naître?
Oui, bien évidemment, parce que le désir dans ce métier, le désir de jouer la comédie, d'être choisi pour un rôle, le désir de plaire, mais pas de plaire dans un comment dire
dans un sens sexuel du terme,
dans un sens sexuel, mais peut être confondu.
C'est ça.
Et c'est vrai que ce glissement entre les deux, il est assez. Faut avoir la tête sur les épaules, faut être suffisamment entouré et solide pour se rendre compte qu'il y a des moments de glissement où voilà, il faut rester sur la
mais
corde.
Il y a encore de jeunes comédiennes qui peuvent penser que il faut coucher pour réussir ou que si le directeur de casting est un tout petit peu entreprenant, bah oui, je pourrais avoir le rôle si je cède à ses avances.
C'est évident, mais après il faut faire aussi avec ce qu'on est. Moi je sais que même quand j'étais très jeune, bon après j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé, mais moi j'ai jamais fonctionné comme ça. Et même il y a eu des fois quand j'étais jeune, je me disais oh là là, bah oui telle actrice elle est arrivée avec un grand décolleté, puis elle a un peu allumé le réal et elle a été prise. Bon, je vais essayer. Les fois où j'ai essayé de faire ça, c'était un fiasco. Parce que c'était pas moi. D'un coup, j'avais investi, j'avais mis la robe, le Wonderbra et tout. J'avais l'impression d'être vraiment une traînée, quoi. Ça c'était pas possible. Et ça se sentait.
Ouais. Ce qui est un peu difficile, des fois, dans les castings. Bon, il y a le
toi aussi, tu es allé avec un Wonderbra et des résines.
Et bizarrement, j'ai pas été rappelé. Non, c'est très bizarre. Non, mais il y a la première étape où là, généralement, il y a tout le monde. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les callbacks. Donc les gens te rappellent, tu viens une deuxième, une
quand
troisième
rappelle,
fois.
Parce que, oui, quand ils rappellent. Stéphane a ce micro. Nous avait dit que lui il rappelait pour dire ça marche, ça ne marche pas, qu'il avait cette politesse là, mais c'est pas la politesse de tout le monde non plus dans ce métier.
Non, mais c'est pas le cas quand tu postules pour une offre d'emploi dans la vie. Je veux dire, il n'y a pas que les comédiens qui sont
bien sûr
là-dessus. Je veux dire, on te dit pas, on ne t'envoie pas une lettre en disant merci, au revoir. En fait,
le rapport, le piège, c'est que le rapport est quand même plus humain dans ce métier, puisque justement c'est un face-à-face. C'est que
il n'y a pas que les compétences qui rentrent en jeu, c'est ça qui est mystérieux dans nos métiers. Moi, je m'en suis rendu compte à mon tout petit niveau quand j'ai réalisé mon court-métrage, c'est que je disais toujours non mais on est capable de tout jouer nous comédiens, sauf que quand on est de l'autre côté et qu'on voit des acteurs rentrer dans une pièce, heureusement ou malheureusement, il y a quelque chose en plus, il y a ce qu'est la personne, ce qu'elle dégage, et ça compte, et malheureusement moi j'ai pu m'en vouloir de ça, mais voilà, donc on peut pas non plus toujours lutter contre sa propre nature.
Et vous n'avez jamais croisé Harvey Weinstein dans Weinstein, il faut dire.
Si, je l'ai croisé une fois.
Ah, mais... zut. Je suis désolé, pardon, je savais pas.
Mais non, mais moi je peux le raconter parce que c'est rigolo. C'est rigolo, c'était au Festival de Venise, et il y a pas très longtemps d'ailleurs, et on me dit Harvey Weinstein veut te rencontrer, etc. Et je me dis, oh là là, Harvey Weinstein, attends, il faut que je parle super bien anglais. Donc je m'entraîne à me dire, il faut que je parle vraiment bien anglais. Et j'arrive pour boire un café avec lui dans le hall d'un hôtel, donc pas dans sa suite, hein, c'était pas encore l'étape de la suite. Et là, je parle, j'ai tous mes neurones en fusion, et je parle anglais. Je me dis, ouais, c'est bon, je parle bien. Sauf qu'au bout de 10 minutes, je sens que je commence à m'épuiser, et que si je reste 3 minutes de plus, je vais, I will speak like that. Et donc je lui dis, oh, I'm so sorry, I have to take my plane. Et donc, je me suis cassée parce que j'ai prétendu que j'avais un avion à prendre, mais c'est juste parce que j'aurais pas pu parler anglais 3 minutes de plus. Voilà, donc j'ai échappé.
Comme quoi, ça tient rien.
Vous avez échappé à la suite.
Oui, j'ai échappé.
Donc, tu es parti en France.
Europe Assistance, ça n'a rien.
On parle de ce festival, le 13e édition du festival Paris Courdevant Île-de-France, qui débute donc aujourd'hui, se terminera le 21 novembre prochain. Ça se passe à la Bibliothèque Nationale de France. Le jury, je le rappelle, Simon Abkarian, Mona Ayash, Abdel Jaffer, Antoine Rhin et Coralie Serussier, avec Marie Gillin en présidente du jury. Deux auditoriums et le grand foyer de la Bibliothèque Nationale de France vous accueilleront donc pour ces projections avec des rencontres. Il y a aussi le bateau phare qui est le haut lieu de la nuit parisienne pour avoir des moments plus festifs et des apéro-boats aussi. Je regarde Daniel Morin pour que rassurer.
Parce qu'il aime les bateaux.
Tu aimes tellement les courts-métrages que tu pourras aller à l'apéro-boat aussi.
C'est vous mon phare.
Vous. Il est plutôt égyptien que breton, c'est ça. Voici Leïla. Leïla, tes oreilles ont sifflé quand on t'a dit que Marie Gillin venait.
Oui, Marie, et on parle de cinéma depuis le début de l'émission, mais je voulais vous emmener au théâtre cette fois-ci. Vous êtes, souvenez-vous, en robe de soirée. Vous venez de recevoir un Molière pour votre rôle dans La Vénus à la fourrure. Et vous venez de hurler de joie un putain mémorable dans vos remerciements. Et vous donnez aussi pas mal d'infos sur le monde du théâtre aujourd'hui.
Jérémy, voilà, là où on est aujourd'hui, c'est grâce à ta confiance, grâce à ton amour, grâce à ta passion, grâce à tes couilles, parce que t'en as des sacrées, pour avoir monté cette pièce. C'est grâce aussi à Pascal Guillaume, notre producteur, qui en a eu aussi des très très grosses, d'avoir eu envie de monter cette pièce. C'est grâce à l'auteur, David Ives, qui en a encore de plus plus grosses, parce que c'est un auteur extraordinaire qui nous a écrit une pièce fantastique, voilà, avec des...
Couille. Voilà, un vrai message que vous délivrez ce soir-là.
Pas plus simple de monter une pièce avec les mains.
Une façon de vous ériger aussi contre un théâtre qui ronronne, qui prend pas de risques. J'ai eu cette sensation-là avec ce discours-là.
Sans mort de rire.
On va pouvoir en sortir, Marie, il va falloir intervenir.
C'est la reine de Morin, j'ai l'image maintenant, c'est malin. Bon.
Mais allons-y. Non, c'est vrai que la particularité de ce projet de la Vénus à la fourrure, c'est que on a joué cette pièce dans le théâtre privé, mm-hmm. mais cette pièce était fondamentalement rock'n'roll. Jérémy Lipman, le metteur en scène, était aussi très rock'n'roll. Donc je trouve que ça a créé une espèce de pont dans ce théâtre privé où il y a des pièces merveilleuses, mais il y a aussi des pièces qui se montrent qui sont plus classiques et voilà plus
en jeu commercial,
ce qui est normal aussi parce qu'il faut remplir les théâtres. Mais là, on avait un petit bijou, on avait un objet et on avait une liberté folle. Mm-hmm. Et ce qui était fantastique et c'est très rare, c'est que cette liberté, elle a eu du succès.
Ouais.
Et ça, c'est merveilleux parce que c'est rare.
C'était complètement inattendu pour vous, un tel succès.
C'est le succès que c'est quand même toujours.
Non, mais parce qu'on peut aussi
miraculeux.
Sentir. On peut aussi sentir que on a tous formidable. Les ingrédients pour que nécessairement ça va. Là, ça va marcher. On peut sentir les bons plans, non?
Franchement, moi, j'ai pas réfléchi comme ça. C'est à partir du moment où on a commencé à travailler, on était tellement en symbiose et on était tellement libre de se ridiculiser, d'en faire trop. On était tellement dans le travail et dans la recherche que on était impatient de voir ce qui allait se passer. Voilà, confiant, excité, mais on peut jamais s'attendre au succès.
Et si on fait un parallèle avec le cinéma, là vous venez de parler de cette pièce, de cet enthousiasme, de cette audace aussi, est-ce que le cinéma, quel constat vous feriez pour le cinéma ?
Le cinéma aujourd'hui ?
Ouais. Quand il s'agit de monter un film.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette époque où la télévision est vraiment dominante et où les séries sont de plus en plus folles artistiquement, merveilleuses, extrêmement riches.
La qualité s'arrange à la télé, oui.
Oui, c'est devenu un art majeur, quoi, les séries aujourd'hui. Ouais. Et donc, je trouve que c'est assez miraculeux aujourd'hui, justement, de se dire qu'on fait des films qui durent 1h45, 2h, qui nous racontent des histoires, qui nous parlent de personnages, qui nous touchent, qui nous emportent. Ça me donne encore plus envie d'aimer le cinéma aujourd'hui.
Le festival donc démarre aujourd'hui jusqu'au 21 novembre. C'est Paris Court devant Île-de-France. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien, c'est juste regarder.
J'ai pas de transition.
J'ai pris mon élan. Non, mais j'ai un problème avec le Paris Court devant Île-de-France. C'est-à-dire, j'ai du mal à me dire où je dois bien placer la virgule pour pas être dans la fausse note. Pas de fausse note avec Guillermo Guy. Bonjour les amis. C'est le mec dans le t-shirt là, c'est lui.
Alors vous le savez naturellement, j'ai une vie de légumes oubliés. mais j'en fais quand même profiter le service public, malgré l'hostilité notoire de Leïla et de ses sous-fifres. Oui. Bon, il m'arrivait 2-3 bricoles dans mes tentatives récentes de déplacement assisté. Notamment il y a quelques jours dans le métro, j'avais un jeune homme en face de moi, il a les cheveux propres et tout, mais je vois qu'il va pas bien. Et à un moment... Voilà, il vomit l'équivalent d'un petit étang de liquide pourpre à 40 cm de mes tibias, projetant une partie de son bœuf stroganoff sur l'ouvrelet de mon pantalon. Et j'ai envie de dire à ce garçon, quid du vivre ensemble. J'ai lu tous les bouquins de Nadine de Rothschild, nulle part il y a marqué que pour entamer une camaraderie, il faut partager ses sucs gastriques sous les sujets d'un inconnu. Donc, alors pour éviter ça, je me dis, j'arrête le métro, je prends des taxis, mais les taxis, depuis l'arrivée des VTC, ils se divisent en deux grandes catégories. D'un côté, il y a ceux qui ont profité de l'arrivée des VTC pour dire, tiens, c'est juste, on est des taximans, on n'est pas des gardiens de prison. Et eux, ils ont radicalement changé d'attitude. Aujourd'hui, ils t'ouvrent la porte et tout, ils te consolent un chagrin, ils te préparent une carbonara. Ils ont changé, quoi. T'es plus un client, t'es un secrétaire d'État, tu sors de la voiture, tu commences à serrer des mains et tout. Mais le problème.
Ils mettent des bouteilles d'eau.
Ouais, exactement, il y a tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que. Il y a aussi l'autre catégorie de taxis, c'est ceux que l'arrivée des VTC a complètement découragé. Et eux, franchement, eux, ils n'ont plus rien à perdre. Ils cultivent de la beuh dans l'allume-cigare et tout. C'est même pas qu'ils te tutoient, c'est qu'ils te donnent ça va ma couille, je te dépose quelque part, enculé. Puis ils te jettent dehors comme une motte de terre, comme ça, vraiment. Et moi, j'ai eu droit à cette option-là ce week-end. Après 20 secondes de course, le mec s'arrête sur les Champs-Élysées, il me fait attends un peu, s'il te plaît, je vais snapper un truc. J'ai pas de problème, c'est pas comme si j'étais un client ou que, toi, que le compteur tournait. Et s'il doit créer un mail ou jouer au poker online, tu me dis, moi, je vais m'occuper, je vais faire un sudoku. Et on repart. Et là, il voit une fille sur les Champs-Élysées, il me fait tu vois, elle, tu la soulèves normal. Parenthèse. S'il y a bien un truc que j'aime bien à Paris, c'est que je comprends jamais comment vous construisez vos expressions. Tu la soulèves normal. Ça veut dire quoi? Tu vois cette pizza, tu la découpes vitrée. Tu vois ce film, tu l'envisages flétrie. Il n'y a pas de logique dans la juxtaposition des mots. Bref, la fille en question, non seulement il se dit que je la soulève normal, mais en plus il me fait viens, on la prend avec nous. Oh, comment ça avec nous? Putain, on a mis depuis 4 minutes, tu veux déjà m'impliquer dans un scandale sexuel? J'ai dit arrête, c'est vrai que je suis sur France Inter, mais je le connais pas si bien, Daniel Morin. Il me fait non, t'inquiète, on va lui demander de monter. Je fais non, merci, t'as pas lu les journaux récemment, là, quoi? Et il ouvre ma fenêtre à moi! Et il lui crie, mademoiselle, un taxi! Je fais, putain, j'ai envie de crever dans un Flash Garden, quoi. La prochaine fois, non, c'est vrai, la dernière fois où j'ai aussi honte de ma vie, c'était en voyant le salaire que me proposait Nagui. Et d'ailleurs, vraiment, autant vous dire que quand il est devenu juste raciste, ça m'a soulagé, quoi, vraiment. Je lui ai dit que j'étais belge, il m'a fait laisse tomber les Belges, la Belgique c'est claqué, les gens ils sont tous endormis, ils sont à moitié paysans, moitié villageois. Franchement sérieux, votre accent il vous rend débile. Mais bon, c'est pas cool pour mon pays, ouais. La Belgique a quand même fait pas mal pour la construction européenne, mais au moins sur ce terrain-là, je risquais pas de finir dans un hashtag, quoi. Donc limite, c'était vraiment, c'est vrai, c'était limite drôle, quoi. Donc pour éviter ça, je me dis j'arrête les taxis, je prends des Uber. Au moins si le chauffeur Uber il me propose de kidnapper une fille, au moins je peux lui mettre que 2 étoiles. C'est vrai. Début de semaine, il y a un peu de soleil, je prends un Uber et le mec il commence sa course en me disant on a de la chance avec le temps, non? Je dis ah ben voilà. Là j'ai dit oui, j'ai dit le small talk sur la météo, ça je gère quand même vraiment. Je peux tenir au moins 3 km sur les grelons. Mais 5 minutes plus tard, c'est vrai, au moins 2 km je tiens. Mais 5 minutes plus tard dans une discussion sur je sais plus quel milieu social, il me fait oh c'est comme tous les milieux, vous savez, regardez-moi par exemple, on m'a accusé d'avoir tripoté une gamine, j'attends toujours les preuves. Je dis c'est pas possible, c'est un complot quoi, je suis maudit, je vais rendez-moi mon taximan obsédé, rendez-moi mon vomi, j'ai le small talk sur la pédophilie, ça, j'ai quand même pas encore les épaules quoi. Je savais pas quoi répondre forcément, le gars, j'allais pas lui faire c'était bien, vous avez kiffé. Mais c'est vrai, non. Qu'est-ce que j'allais lui faire? Donc je lui dis vous avez eu des problèmes. Je savais pas quoi dire. Donc, comme quoi, au lieu de bouger partout comme des poules sans tête, parfois on ferait mieux de rester chez soi et rien foutre. Allez, bonne émission les amis.
Merci Guillaume Rize. France Inter, Nagui, la bande originale.
Ah oui, c'est Belgium Power avec vous deux. Voilà. Ici. Guillaume, Marie, Guillaume.
C'est la 18e chronique que je fais avec Nagui.
Ça, au moins, c'est fait. Dans quelques instants, nous allons continuer de parler des courts-métrages et aussi de ce principe d'être et acteur et réalisateur, puisque vous êtes passé derrière la caméra. Après, pardon, combien d'années de comédienne? Ça fait combien de temps que vous jouez la comédie?
Oui,
vous
avez
commencé très jeune.
Ça fait plus de 20 ans, hein, cher ami.
Non, c'est vrai, ça fait 20 ans que vous jouez?
Mais plus.
Moi, j'étais plus de 25. Ça fait 25 ans.
Oui. Moi, j'étais amoureux de Marie quand j'étais petit.
Il avait 2 ans.
Non, pas ça, on n'a pas vraiment de différence, mais quand elle jouait dans Marie.
Mon père héros.
Mon père héros, puis Marie aussi, c'était des.
Mais Marie, ils connaissent pas, c'est un film belge.
C'est un film belge, vraiment. C'est notre. Un peu héroïne comme ça quand on
est. C'est
vrai. Ouais,
absolument. Ouais. Il m'a très délicat de dire que tu es toujours un beau.
Oui, mais j'ai trouvé fantastique.
Évidemment qu'elle est fantastique. Évidemment. Quelques années justement, tiens, de votre carrière mise en musique. En 91, vous écoutiez Marie-Gilin. Peter Gabriel, c'est une musique que vous écoutiez à la maison? C'est la musique de...
Non, mais quand on m'a demandé de faire cette liste, j'ai pensé mon père Suero et je me suis revue à l'île Maurice un samedi soir à danser avec le chef opérateur
sur cette... Peter Gabriel?
Voilà.
Bien.
Ouais, c'était. Hey. Mais donc c'est drôle parce que j'ai la Madeleine de Proust là. C'est les odeurs mauriciennes qui me reviennent et puis ces fêtes incroyables qu'on faisait à l'époque sur les tournages.
C'est plus le cas maintenant.
C'est un bon souvenir.
C'est plus le cas maintenant.
Maintenant, on travaille. non, j'exagère. Non. Mais voilà, donc pour moi, ça me rappelle ce film. C'est empreint de ce plongeon, quoi.
Insouciance aussi, un peu.
Insouciance. Ouais. Ouais, danse jusqu'au bout de la nuit et puis découverte. Puis Salisbury Hill, voilà. J'étais sur cette petite colline.
Et puis le succès incroyable. Vous êtes aux côtés de Gérard Depardieu dans cette comédie de Gérard Lozier et vous êtes. D'une certaine façon, la première comédienne belge à faire ainsi immersion dans le cinéma français et marquer de façon définitive les esprits.
Mais c'est vrai que c'était étonnant, hein, dans un film populaire français, chercher la fille de Gérard Depardieu, c'était pas gagné de prendre une petite Belge qui vient d'un village de 600 habitants près de Liège, quoi. Donc pour moi, c'était incroyable, ça a changé ma vie. Après,
il n'y avait aucune comédienne belge qui avait explosé en France avant.
Il y avait évidemment plein de comédiens et comédiennes belges qui avaient énormément de talent. Mais c'est vrai que le fait d'avoir joué dans cette comédie qui a été très très populaire en France.
la première à avoir du succès en France en étant actrice
dans les très jeunes filles qui ont commencé, okay. Oui.
Non, mais je savais pas.
Et quand
non.
vous dites ça a changé votre vie, vous parlez d'une vague déferlante, je lisais ça dans les interviews, une sorte de tsunami qui s'est abattu là sur votre quotidien, votre famille aussi.
On est en 91, hein,
ce moment-là. 91, ouais.
Bah oui, vous imaginez, vous avez 16 ans, et puis tout d'un coup, vous partez à l'île Maurice faire un film avec Gérard Depardieu, et vous ne revenez jamais, d'une certaine façon. Ça change plein de choses, ça déplace plein de choses dans l'entourage, dans la vie de famille.
On sait gérer ce succès justement à cet âge-là. Est-ce que
j'étais bien entourée.
Un petit moment légitime de grosse tête.
Non, moi c'était pas la grosse tête vraiment le problème. Je pense que c'était justement, en plus on m'avait tellement dit, il faut pas que tu prennes la grosse tête, il faut que tu restes normale, que j'ai un peu traversé toutes ces années sans justement pouvoir me dire ouais c'est génial,
et
je fais n'importe quoi, je pars en live. Non, j'étais au contraire plutôt très scolaire et très, voilà, très justement pour pas péter les plombs. C'est comme si on, voilà,
garder
j'étais
contrôle,
une espèce de bombe à retardement, ouais. Et qu'on m'avait, on maintenait
sur la bonne ligne, ouais.
Un peu, ouais.
En 2002, vous avez une expérience au théâtre. À ce moment-là, vous écoutiez. Alors, il faut nous expliquer.
Kenji Girac.
Non. C'est la musique du film d'Almodovar, ouais. Parle avec elle. Moi, j'aime beaucoup cette musique. Et puis, comme c'est espagnol, ça me faisait penser à Hysteria, puisque dans Hysteria, c'était la confrontation entre Sigmund Freud et Salvador Dali. Et j'écoutais cette musique dans ma loge.
Pour vous mettre en condition, pour vous être dans l'humeur de la pièce mise en scène par John Malkovich.
C'était pas volontaire, mais il y a toujours quand on est sur un tournage ou sur une, c'est des couleurs quoi, c'est des couleurs.
Non, mais est-ce que vous faites une BO de pour vous mettre dans un état d'esprit lorsque vous êtes sur un tournage ou sur
ça,
dans
ça se fait
de
un
théâtre.
Peu de façon spontanée, ouais. Mais c'est des musiques qui restent et qui vous accompagnent quoi.
Alors on a parlé tout à l'heure de l'expérience casting, après il y a les essais, et là je crois que pour cette pièce-là, on vous a demandé de lire un extrait du texte relatant l'histoire d'un viol sur jeune femme.
Oui.
Et que...
oui, parce que je jouais le rôle d'une jeune fille qui a été abusée quand elle était petite, sauf que ce souvenir est resté dans son inconscient, et elle va, c'était assez bouleversant, parce qu'elle va revivre au fur et à mesure des séances de psy, jusqu'au moment où elle va revivre la scène du viol. Donc c'est pas très gai, et on avait fait cette lecture dans le bureau de la production, et il y avait John Malkovich qui était là, et je dois avouer que ça m'arrive rarement, mais il y a des moments comme ça où le texte était tellement fort que j'ai eu l'impression d'être complètement dans le présent, et je pouvais limite plus articuler parce que j'étais submergée par des sanglots, et John Malkovich pleurait. Alors ça, c'est quand même le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir quand on fait des essais.
Ouais.
C'est de sentir qu'il y a quand même une petite, un petit retour de flamme.
Ouais, tu vois Tom, il y a des castings qui se passent bien aussi.
Vous disiez en plus que vous
mais
étiez...
Mais il y a des bons textes aussi.
C'est ça.
Vous disiez que vous étiez nul en larmes. Donc je pense que vous ne devez pas vous imaginer que ça allait déclencher ça en vous en fait. Là, c'est même plus la comédienne qui a été émue.
Je trouve que c'est les moments les plus forts parce que ça fait appel à l'inconscient. C'est comme dans la vie. Quand tout d'un coup, on se met à fondre en larmes, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est les réminiscences, quoi.
C'est souvent ce qu'on demande au casting, d'ailleurs, c'est de pleurer pour voir si on pleure sur commande.
Moi, c'est pas ça qui me pose le plus de problèmes. Ce que je trouve le plus cocasse, c'est quand tout d'un coup vous faites des essais pour un film où il faut jouer que vous êtes dans une voiture et qu'il y a une attaque d'aliens et que je sais pas, il y a 25 hélicoptères et que vous êtes là en train de faire des cascades, scène pour des films d'action. Ça c'est un peu plus cocasse quand même. Vous êtes dans un bureau.
Et le volant, c'est un porte-manteau.
Voilà, c'est exactement ça.
Bah, Guillaume Gallien nous racontait l'histoire de la table qui a été inspirée par les Dardennes, ouais.
C'était quoi, c'est ça?
C'est ce qui ouvre le film
Marilyn,
la première scène de Marilyn, c'est-à-dire que les Dardennes prennent, c'est Émilie Dequesne, retour en Belgique, en disant voilà, il y a une table qui est là, c'est
la chose la plus importante de ta vie.
Ce à quoi tu tiens le plus dans ta vie, et ils vont tout faire pour lui retirer la table des mains, et elle va s'accrocher à cette table comme si c'était.
D'ailleurs, il paraît qu'aujourd'hui encore, elle la traîne dans la rue, ça. Ouais,
et la scène ouvre Marilyn, c'est une scène extrêmement forte parce qu'on se dit, mais si c'est sur des détails comme ça que l'on réussit à voir ce qui se cache derrière un simple regard ou un jeu ou un texte, c'est impressionnant, mais c'est très bien joué en tout cas par Marilyn. J'avais pas vu les essais d'Emily Deken, qui est une très bonne comédienne aussi, mais en tout cas c'est des essais
on a vu
probants.
Adeline Dermy, voilà.
Exactement. Sur cette on vous a souvent posé la question, on en reparle parce que ça a été souvent le cas de se retrouver nu sur scène au théâtre, c'est une question récurrente dans vos
interviews. C'est une question qui plaît bien.
Non, parce que on se dit que c'est peut-être plus facile au cinéma qu'au théâtre.
Plus facile au cinéma qu'au théâtre.
Il n'y a pas de montage au théâtre, quoi, donc faut pas.
Oui, mais au théâtre, il y a des lumières, il y a des traites, voilà, il y a des chefs créateurs
oui,
de lumière.
Oui, mais il y a un public, alors que il y a des équipes réduites
oui,
au cinéma. On n'est plus que deux ou trois dans la pièce pour jouer la scène d'amour ou la scène de la douche, essentielle dans un film. Il faut toujours qu'on voit la comédienne sortir de la douche.
Mais ça se prépare aussi, c'est-à-dire que dans Hystéria, déjà, j'étais pas nue. Je donnais l'impression d'être nue, mais j'avais une espèce de collant transparent. Donc où moi je n'avais pas cette sensation d'être nue. Dans la Vénus à la fourrure, on était un peu dans un écrin, donc il y avait voilà, il y a des choses qui font que vous arrangez un peu pour avoir l'air nu mais ne pas l'être vraiment pour être suffisamment confort.
Il y a un travail à faire sur soi en se disant finalement c'est rien, c'est qu'un bout de peau, moi je n'ai pas de problème à être nu, c'est plus le problème de ceux qui l'interprètent ou de ceux qui en font
non,
un délire.
Je crois que c'est ça pose toujours un problème,
y a une pudeur, quand même,
parce
qu'on
a tous des complexes, donc je pense qu'il y a la pudeur mais il y a les complexes aussi forcément, on a un peu de gras à gauche à droite, on n'a pas trop envie.
Oui, c'est normal, ça s'appelle la vie ça.
Oui, bah donc voilà, mais sauf que dans la vie on peut dire baisse la lumière. On met un petit drap sur l'abat-jour, mais au théâtre, bon, on peut mettre un petit drap.
En 2011, vous écoutiez.
Il y a dans tes yeux comme un air curieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux. La force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux.
J'adore Annie, ça faisait longtemps, enfin, j'ai plus de nouvelles, je sais pas s'il a sorti un nouvel album ou pas, dommage en tout cas si c'est pas le cas, et j'ai hâte de l'écouter si c'est le cas. Dans tes yeux, là vous vous retrouvez dans quel, avec votre Madeleine musicale justement, dans quel contexte en 2011 avec cette musique
c'est l'année de Toutes nos envies, le film de Philippe Lioret que j'ai fait avec Vincent Lindon, et il se fait que voilà, je crois que c'est l'année de la sortie de son album, et moi c'est une chanson que j'adore et qui m'a accompagnée longtemps, et ça me faisait penser un peu à ce personnage de Claire que je jouais dans Toutes nos envies, parce que c'est la force vive, c'est la vitalité. Et puis, je sais pas, je trouve que cette chanson, elle est magnifique. Moi, elle me hérisse les poils. Je la trouve vraiment belle.
Et de la force vive, vous en avez fait preuve aussi pour décrocher le rôle.
Ouais, là, je me suis bien battue. Ouais. Je me suis bien battue parce que c'était pas gagné. Philippe Lioret, il cherchait son personnage, donc il a vu beaucoup, beaucoup de comédiennes. Et il a fallu que je mette vraiment mon orgueil dans ma poche, parce que quand j'ai lu le scénar, que j'étais pas censée lire, je me suis dit, bon, bah voilà, là, c'est un rendez-vous dans ma vie. Je peux arrêter de faire mon métier d'actrice après ça, mais ça, si je passe à côté, je veux plus être actrice, ça m'intéresse
carrément,
plus.
Ouais.
Et ça me fait quand même très rarement ça. Et donc, j'ai été maligne sur ce coup-là. C'est-à-dire que je l'ai joué plutôt psychologue, j'ai pas été avec mes gros sabots. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de passer les essais, mais c'est compliqué quand quelqu'un à la base vous désire pas.
Oui, parce qu'il vous parlait, des comédiennes.
Ah bah, il me parlait de toutes les autres comédiennes qu'il avait envisagées. Il me parlait de toutes ses hésitations. Et donc, moi, j'avais un peu l'impression d'être presque son psy. Vous
voyez, bonne copine, en fait.
La bonne copine. Et la bonne copine qui a quand même une petite idée derrière la tête.
Il y en a. C'était comme ça, des copines.
Okay, au-delà d'avoir le rôle aussi, le fait d'avoir réussi à le convaincre, est-ce que ça déclenche autre chose par la suite? Est-ce que ça redonne un nouvel élan à sa carrière, à son.
De la confiance.
Son envie de se battre.
Ce qui m'a redonné confiance, c'est, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est plus souvent pas choisi que choisi dans nos métiers d'acteur. Donc ça n'a rien à voir avec le talent, mais il faut être la personne qu'on cherche. Alors, le réalisateur, quelquefois, ne sait pas ce qu'il cherche, mais c'est complètement. Tout ça est un peu impalpable. Et là, ce qui m'a redonné confiance, c'est que ça m'a reconnecté avec qui j'étais. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, je suis une travailleuse. J'ai vraiment travaillé mes essais, j'avais l'impression d'être prête. Et parce que j'ai fait des bons essais, il m'a choisi.
Ouais.
Et ça, c'était pour moi une belle récompense, parce qu'il n'y avait pas. Je pense que mon envie était telle. qu'il pouvait pas, il pouvait pas ne pas me prendre, quoi. Donc c'est joli quand on vit des moments comme ça, parce que ça nous réconcilie avec ce métier d'acteur, où on se dit, tiens, mais quand même, finalement, il y a un peu une justice.
Ouais, c'est la pratique, c'est le faire, voilà. Quoi.
C'est
ouais.
peut-être le point de départ aussi du cheminement pour passer de l'autre côté de la caméra aussi. D'abord, un, cet amour des comédiennes et des comédiens. Et puis, deux, bah, on me propose pas, j'ai du temps, j'ai des envies, j'ai des idées. Et je vais me mettre à écrire.
Oui,
et...
cela dit, il y a eu plein de périodes dans ma vie où je tournais pas, j'avais vraiment beaucoup de temps et j'ai pas écrit, j'étais pas prête, en fait.
C'est quoi le déclic, alors?
Bah, le déclic, c'est vraiment, franchement, je suis très reconnaissante que la production Full Dawa m'ait contacté pour ces fameux talents Canadami, parce que j'avais déjà écrit plusieurs trucs qui étaient dans des tiroirs, mais j'avais pas ce besoin de passer derrière la caméra. Et puis je me sentais peut-être pas légitime. Bref, on m'a appelé, première réaction, j'ai dit non. Puis après, je me suis dit, mais t'es complètement idiote ou quoi? C'est-à-dire que là, tout le monde pourrait rêver de faire un court-métrage qui est produit, enfin, c'est une chance extraordinaire. Et après, il y a eu un déclic, et alors après, ça a été vraiment la révélation, aussi bien dans l'écriture.
Ah bah justement, alors on va voir si le cheminement est le même pour d'autres, puisqu'il y a beaucoup d'entretiens dans un livre qui est publié aux Impressions Nouvelles, Caméra Subjective. Ça s'appelle L'acteur cinéaste, devant et derrière la caméra. Et l'un des auteurs, parce que vous êtes deux, hein, j'ai l'impression bien à avoir.
Avec Frédéric Socher, que Marie-Gilles la connaît bien. Mais voilà. Oui. Et en fait, ce sont des
vous êtes oui, Bin NT, je vais aller au bout. Vous êtes journaliste cinéma, enseignant à l'université Paris 1, Paris Panthéon, Sorbonne, scénariste également et réalisateur documentaire sur Alain René. Ma première question était de savoir si le chemin de l'acteur qui devient réalisateur finalement est globalement le même ou pas, ou chacun a son histoire. C'est pour ça que vous avez réuni ces témoignages.
Voilà, et ce qui est passionnant, c'est que les itinéraires sont très différents. Il y a les acteurs qui deviennent cinéastes. Il y a les cinéastes qui finissent par jouer dans leurs films. Tout existe. Je pense que l'un des cas les plus intéressants, c'est peut-être Mathieu Amalric, parce que Mathieu Amalric, lui, il a toujours rêvé d'être réalisateur, et il s'est retrouvé un jour à jouer dans un court-métrage que Arnaud de Pléchin a vu. Et Arnaud de Pléchin, il aime bien engager des acteurs qui sont pas des acteurs professionnels, ouais, forcément, mais qui sont aussi cinéastes, parce qu'il a l'impression que un acteur qui est aussi cinéaste, il comprend les problèmes du cinéaste. Donc il se retrouve à jouer quand même un rôle principal dans un long métrage, et puis ça va déclencher une carrière extraordinaire, mais il va continuer de vouloir être réalisateur.
Alors on a l'impression que c'est un phénomène de mode, mais ça a toujours existé, les acteurs réalisateurs. Charlie Chaplin
est un exemple. C'est vrai,
c'est
que
peut-être pas le plus ancien.
Bah, le plus ancien, c'est Méliès. Méliès, il est...
La Lune, c'était lui?
Bah oui. en fait, il produisait des spectacles. C'était un illusionniste.
Ouais.
Et donc, quand le cinéma est arrivé, il s'est dit, mais c'est fantastique pour conserver mes prestations. Et il n'a jamais eu de la question qui s'est posée de qui va réaliser. Le mot réalisateur n'existait même pas à l'époque. Donc, il jouait dedans. C'est lui qui montait les spectacles et puis il s'est filmé. Ensuite, l'exemple le plus célèbre, c'était Chaplin. Chaplin qui commence par être juste acteur sur les planches, puis au cinéma, et puis très vite, même en tant qu'acteur, il conçoit ses propres gags et il va vouloir tout contrôler. Et à partir de là, ça va lancer. Et c'est vrai que dans la comédie, l'acteur a peut-être, notamment dans le burlesque et au temps du muet, l'acteur a un rôle immense, puisque c'est lui qui est au front et puis qui conçoit aussi ce qui se passe à l'écran.
Alors il y a un élément aussi dans la manière de diriger les autres comédiens qui est important. Souvent les comédiens nous disent, le réalisateur ou la réalisatrice était ou est aussi comédienne, comédien, et donc ça aide parce qu'il ou elle comprend ce que je vis.
La communication passe plus vite. C'est notamment Nathalie Baye qui m'a dit que d'avoir été dirigée par Nicole Garcia. Elle dit c'était le premier film réalisé par Nicole Garcia.
C'est dans votre livre, oui.
Elle est du bâtiment. Ça veut dire
elle est du métier. Elle est la corpo.
Voilà. C'est-à-dire elle a été au front comme je le suis maintenant, donc elle comprend ce que c'est qu'être au front. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand je vous disais qu'il y a des cinéastes qui aiment bien engager des acteurs qui ont été réalisateurs, c'est qu'ils sont conscients aussi de ce que peut être la solitude. C'est le mot est de Mathieu Amalric, la solitude absolue du réalisateur.
Oui, il y a aussi le problème lorsque, par exemple, quelqu'un filme un Michel Blanc ou un Guillaume Gallienne, de se dire il sait très bien lui réaliser, il a sa patte, ou je pense il y a Kassovitz aussi, enfin il y en a beaucoup comme ça. Ça peut être une gêne pour la part d'un réalisateur qui n'est que réalisateur d'avoir devant lui un acteur réalisateur qui
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça peut rassurer même. C'est-à-dire que
ça va dans l'autre sens. Hein, on est d'accord. C'est-à-dire le réalisateur est devant la caméra.
Oui.
Et
il peut être pour le réalisateur.
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une gêne pour le réalisateur?
Le réalisateur qui dirige l'acteur réalisateur.
Ouais, exactement. Ouais.
Bah non, il y a un problème de communication entre vos deux.
J'avais bien compris.
D'accord.
Mais effectivement, non. Ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que l'acteur sait aussi ce que c'est que de réaliser un film. Ouais, donc il va moins me faire chier, peut-être.
Mais si le réalisateur se sent pas tout à fait légitime ou qu'il est pas sûr de ses choix, etc., il se dit que peut-être le mec qui joue, lui,
il saurait faire mieux que moi.
Exactement, ouais, il a peur d'être jugé, peut-être.
Là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir même avec le fait d'être acteur cinéaste, mais ça a à voir avec le fait que, très souvent, les réalisateurs ont peur des acteurs quand ils débutent. Et quand...
Peut pas être bon en tout. Il y a forcément des acteurs réalisateurs qui sont meilleurs acteurs ou meilleurs réalisateurs.
On en connaît.
Alors, on en connaît, mais alors il y a une chose.
C'est une vanne. Ne tombez pas dans le panneau.
Il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est tous les films réalisés par un acteur, même si le film est raté ou a des défauts, etc., il est toujours intéressant dans le choix des acteurs et dans le jeu d'acteurs. Très souvent, il est rare de voir un film dirigé par un comédien
et qui ne soit pas bon,
dont les comédiens ne soient pas bons. C'est-à-dire même si le scénario a des défauts, qu'il est raté ou que l'image n'est pas géniale ou qu'il y a des problèmes de rythme, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Les acteurs sont en général bons.
Et c'est quand même le passage obligé pour les acteurs, c'est-à-dire que c'est d'atteindre cette espèce de climax dans leur carrière en faisant enfin leur premier film.
Ça dépend desquels. Il y en a qui n'ont pas
du tout envie.
Hein.
C'est une question d'envie, c'est pas un passage obligé.
Non.
Le moteur de l'envie, c'est justement d'être celui qui décide de tout sur un plateau.
Moi, je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, en fait, j'écrivais des textes, j'avais envie de raconter des histoires, je montais des spectacles, et puis j'ai fait du théâtre, puis j'ai été choisie comme actrice. Et donc, cette place d'actrice était une place qui était, comment dire, assez forte, puisque en plus j'ai eu la chance de faire des films qui ont marché. Et donc quand vous avez une place comme ça qui prend autant de place, si j'ai envie de dire, vous sentez pas légitime de changer. C'est-à-dire que moi j'étais dans un sillon et voilà, cette place on me l'avait offerte sur un plateau d'argent, et j'aime profondément mon métier d'actrice, mais je me suis rendu compte que plus j'avançais, mais même très jeune, moi j'ai toujours aimé être impliquée dans la création du projet, de faire partie du cœur de la création artistique. Moi, être juste une actrice objet qu'on pose là, qu'on met là, qui va là et
qui
regarde de tel
texte,
côté, c'est, je peux le faire aussi, mais ça m'éclate vraiment beaucoup moins.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on va moins vous proposer maintenant des rôles quand on de savoir que vous avez des
j'ai expliqué ça pour dire que je me suis rendu compte que dans la façon dont je vis mon métier d'actrice, il y avait autre chose, et le fait d'avoir découvert cette place de réalisateur, encore une fois j'ai fait un petit court métrage de 13 minutes, donc je ne sais pas ce que donnera la suite, mais quand j'ai découvert cette place, non pas que je n'aime pas la place d'actrice, mais je me suis dit mais c'est vraiment là que j'ai envie d'être, parce que en fait ce n'est pas du tout la même place, parce qu'on est le capitaine et on embarque l'équipe avec soi.
Quand on
est acteur, c'est ça qui peut manquer à certains moments, c'est qu'on est finalement un petit maillon parmi d'autres.
Oui, il y a Emmanuelle Berco qui est à la fois actrice et réalisatrice. Ouais. Elle dit mon métier c'est quand même réalisatrice, parce qu'elle dit ça coche plus de cases.
L'ouvrage coordonné par Ndebin donc et José Moore, ça s'appelle L'acteur cinéaste, avec tous ces témoignages. Tiens, je vous l'offre. Ça va vous passionner, Marie Gillin. Merci beaucoup Bin d'être venu à ce micro. Merci. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure à midi 10. Bonjour Tanguy. Hier, Jean-Luc Mélenchon a fait de l'autoscoop.
Oui, le révolutionnaire Bougon a devancé des articles sur lui qui vont sortir dans la presse pour les démentir avant parution. Et ça s'appelle l'autoscoop. Un exemple, si Jérôme Cahuzac avait fait ça la veille des révélations de Mediapart, il aurait déclaré salut, j'aime la Suisse, mais aussi l'argent et les coffres-forts. Voilà, c'est tout simple.
Et c'est tout à l'heure, c'est Tanguy Pastureau, c'est sur France Inter dans la bande originale. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudali.
Bonjour à tous.
Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo.
Salut.
Et Daniel Morin.
Bravo.
Bonjour
Daniel.
Invité Marie-Gina. Bravo. Paris court devant Île-de-France, un festival qui débute aujourd'hui, la 13e édition, et ce jusqu'au 21 novembre. Tout cela se passe à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes présidente du jury, Marie, devant, enfin, aux côtés, pardon, c'est la présidente, elle est devant, mais aux côtés de Simon Abkarian, Mona Ayash, Abdel Jaffri, Antoine Rhin et Coralie Russier. Le rôle de la présidente est d'avoir une voix de plus que les autres et de diriger les débats.
Ça, j'en sais rien du tout.
Vous n'avez jamais été présidente de votre vie? Rappelez-vous.
Non, je crois pas, non. Enfin, si, peut-être, mais non, c'est avant tout de former une équipe et puis d'avoir le plaisir de débattre et tous les avis comptent, évidemment, c'est ça qui est chouette.
Il y a 135 films en compétition, vous avez vraiment tous les voir?
Ouais. Non, ils sont courts.
135.
On va tous les voir et ce qui est vraiment super, c'est qu'ils sont, c'est très 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 éclectique comme sélection. C'est-à-dire, comme je disais, il y a pas que des films d'auteur, il y a des comédies, des films d'animation, des documentaires et tous les cours sont permis, quoi. Voilà, c'est
joli,
joli, joli. Et il y a aussi des rencontres qui se font pendant le festival. J'étais à cheval sur le jingle. Là, en fait.
C'est bien. Oui, des rencontres. Alors, préciser des rencontres, c'est rendez-vous à 16h autour d'un café. C'est une célèbre marque qui s'en occupe et je ne ferai pas le plaisir à Nespresso de les citer. C'est de découvrir les coulisses de la fabrication des films, c'est ça ?
Il y a ça, il y a aussi des lectures de scénarios de films qui ne sont pas encore tournés, qui sont mis en musique et qui sont joués par plusieurs comédiens. Donc il y a un laboratoire d'écriture. Enfin, en tout cas, ça permet de rentrer dans le processus de fabrication d'un film à toutes les étapes et ça, je trouve que c'est vraiment chouette pour le public.
Rencontre avec des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des comédiens, des compositeurs, des chefs-op. C'est tellement important. La lumière, l'éclairage, la direction.
Oui,
tellement important.
Et le catering.
Mais le catering, c'est là où tu vas l'ambiance, catering. Je suis désolé, sur un tournage. Non,
ah, ça compte, le catering.
C'est essentiel, le catering.
Et vous serez aussi dans un autre festival, le Nikon Festival, présidé par Emmanuel Berco, avec Hugo Gélin, je crois, dans le jury aussi.
Ouais, C'est en février, je pense.
Et c'est organisé par qui, le Nikon Festival?
Par Canon.
Par Canon et Polaroid. rencontre sur les scénarios vivants vendredi 17 novembre, vendredi donc demain à 18h. Le grand soir de la série, ça sera samedi. 19 séries digitales émergentes programmées lors du grand soir de la série, parce que c'est vrai que le digital, le web devient une source de créativité. Dans l'urgence de ne pas avoir les moyens, ce sont les idées qui...
Oui, et puis dans les sélections, dans les différentes sélections, ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a des films qui sont vraiment produits et bien produits dans les courts-métrages, mais il y a aussi des films autoproduits. Ça, je trouve que c'est important de le souligner pour dire qu'aujourd'hui, on peut faire des grands films sans forcément avoir beaucoup d'argent. Et c'est important qu'ils fassent partie aussi de la sélection.
Il y a aussi le Grand Prix compétition internationale, il y a le prix du jury de la critique, le prix du jury étudiant, meilleur comédien, meilleure comédienne, j'imagine aussi, et on l'a précisé tout à l'heure, Leïla l'a dit, France 2 diffuse des courts-métrages, ouais. Il y a un prix France 2 qui est le prix des histoires courtes, c'est-à-dire que c'est un préachat par France 2, donc là c'est vraiment un financement essentiel pour que le projet se réalise, de l'un des projets lus lors de la séance des scénarios vivants. Enfin bref, c'est enrichissant et puis en plus, c'est vraiment le nid d'où beaucoup de talents vont sortir, vont éclore, que ce soit des talents de comédiens, de comédiennes, de réalisateurs, d'auteurs. Ça se passe à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21. Et Marie Gilin n'a jamais été en compétition dans ce festival. Vous l'avez précisé tout à l'heure avec votre court-métrage, mais en tout cas, elle en est la présidente. À 12h10, c'est l'heure sur France Inter de Tanguy Pasturo qui maltraite l'information. Alors Tanguy, vous l'avez dit, c'est l'heure de l'auto-scoop de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça ?
Et oui, sous ses allures de Grigou Ronchon, encore moins joyeuse qu'une Miss France qui est le soir de l'élection un furoncle sur le pif. Il est réactif, moderne, connecté. Mélenchon, c'est le Bolivar 2.0. Le soir de la Révolution, il torturera Pierre Gattaz en lui enfonçant des clés USB. Hier, 15 novembre 2017, 25 brumaires de l'an 225 selon lui. Mélenchon, furieux, a pris son clé clavier, l'a cassé avec la tête et allé en acheter un autre, et a rédigé un post sur son blog. Il a un blog, une chaîne YouTube, une web TV, et si vous n'avez pas internet, il vous envoie un pigeon voyageur qui lâche une fiente sur votre balcon si vous habitez le 16e. Et là, il prétend que bientôt, l'Express et Capital, deux des médias dont il brûlera le siège s'il arrive au pouvoir avec licenciement des équipes. Vous êtes mal, hein? Moi, je suis protégé, je bosse avec Garrido. S'apprête à sortir des trucs sur lui. Il le sait, car dit-il, il a des insoumis au sein de ses deux rédacs. Hein, les mecs sont incognito, disent des trucs comme « Super, la nouvelle écharpe de Christophe Barbier, c'est la même que celle d'avant. » Ou « Je placerai bien mon argent dans des SICAV. » Ils écoutent tout. Ensuite, ils s'isolent, composent le numéro de l'hôtel de los soldados heroicos del plebo y unidos si si tambien à Caracas. Disent « Il y a un poil dans la barbe de Castro dans le potage. » Je répète, un poil dans le potage. Caracas appelle Manu Chao, qui appelle son styliste pour l'insulter. Puis, il appelle Mélenchon, qui donc est au courant. Ainsi, ça se trouve, ici même, il y a un insoumis. On va voir. Vive la droite, je kiffe Laurent Wauquiez, go Philippot. Non, personne n'a convaincu. Je m'en doutais un peu, mais il n'y a pas de gens de gauche ici, je peux rester. Alors Mélenchon a donc désamorcé la crise en annonçant que Capital allait parler de son patrimoine, évalué à 1 million d'euros. C'est-à-dire que s'il applique un jour à lui-même son programme, il est cuit. Donc c'est peut-être juste un dépressif qui veut en finir, mais n'ose pas sauter du sixième, de peur qu'on l'associe à Mike Brandt, donc à l'État d'Israël. Quant à l'Express, dit-il, ils vont sortir une histoire d'embauche de sa femme il y a 20 ans. Bref, des délires de médias dominants détenus par des oligarques fans de Macron, Nagui.
Il n'empêche que c'est très malin de sa part de devancer l'information.
Bien sûr, parce que du coup, on ne perd pas de temps avec l'Express et Capital et on peut se concentrer sur la lecture de Modes et Travaux afin d'apprendre à fabriquer soi-même ses coussins de Noël. C'est dans 40 jours, il faut avoir le sens des priorités. Cette façon de faire s'appelle l'autoscoop. On annonce ce qui va sortir. C'est nouveau, hein, et c'est dommage, parce que si en 98, Bill Clinton, en live sur CBS, avait dit « Bonjour, en fait, il est quelqu'un qui vit sous mon bureau. Au revoir. » le procureur Kinesta, il l'avait dans l'os. Si DSK, la veille du Sofitel, avait écrit sur son blog, hébergé par YouPorn, « Salut les lapins, je sais pas vous, mais moi je suis pas bien, j'ai pas fait l'amour depuis 38 minutes », l'établissement aurait annulé le ménage de la chambre le lendemain. L'autoscoop, c'est super. Florian Philippot et le Couscous Gate, hein, au FN, ils étaient pas prêts. S'il avait fait avant un mail interne dans lequel il disait « J'ai rencontré Farid, le patron du resto La Merguez Joyeuse, on est comme les sept doigts de la main d'un ouvrier du nucléaire qui bosse à la centrale de Fessenheim. Pardon, mais j'aime le couscous comme boule anti-stress, j'utilise des pois chiches. » Il serait toujours sur BFM TV de 9h à 23h à parler pour Marine Le Pen. Alors la chanteuse Sia, qui est australienne, c'est-à-dire qu'elle essaye toujours de fourrer son fils dans sa poche, a elle aussi fait de l'autoscoop la semaine dernière.
Ah oui.
Des paparazzi, les seules personnes pour qui une photo du prince Albert nu dans une crique près de Monaco constitue une source de revenus et pas un sentiment d'horreur. La menacée de publier des clichés d'elle à poil. Hein, et ben elle s'est dit, allez-vous, Autoscoop a publié elle-même une photo de ses fesses et fini les paparazzi. Hein, ils ont dû se rabattre sur la cellulite de Rihanna. C'est-à-dire que si Madame de Fontenay, dont le chapeau fait macérer le ciboulot dans son jus depuis 65 ans, se prend à penser que Voici va sortir sa sextape, demain, elle peut se filmer au caméscope en nuisette au sommet de son lit à baldaquin, disant à un monsieur, mon loup, attention à trois, je saute et je m'embroche sur toi comme une viande à kebab pas fraîche, et faire fuiter la chose sur le net. On n'est pas à l'abri de choses difficiles à voir. Mais l'essentiel est de garder la main sur sa com. Ainsi, François Hollande, la veille de la publication des photos de lui sortant de chez Gaillette tout moite avec la braguette ouverte, avait dit « Oui, je suis paisible, j'adore la sieste, je suis bien à tulle, mais purée, j'adore le sexe, un vrai castor. » On lui aurait tout pardonné, car au final, l'autoscoop, c'est juste de la sincérité.
Tanguy Pastureau, merci.
Sur original, Nagui, sur France Inter.
Non mais je trouve ça totalement dingue. La pauvre Sia, je crois que c'est carrément un maître chanteur qui voulait publier ses photos. Il lui demandait de l'argent pour
c'est
pas
Benzema
les publier. Non mais en tout cas, bref.
Allez,
le monde est fou, le monde est dingue. Bref, est-ce que vous avez commencé déjà, Marie-Gilin, à en voir de ces films, ou est-ce que ce sont des séances où vous serez avec les membres du jury à voir ces courts-métrages? Vous avez déjà pris un tout petit peu
J'ai
d'avance.
J'ai pris un petit peu d'avance, ouais. parce que voilà, c'est pas toujours facile d'être présent à toutes les projections. Donc c'est pour ça que j'ai déjà une petite idée de...
Alors justement, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en ressort dans l'écriture? Est-ce que c'est... on va de la comédie au drame? Quel est l'air du temps?
Je peux pas encore vraiment...
Non mais sans rien dévoiler, juste savoir.
Non, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est... Il y a des univers vraiment très 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 variés.
D'accord.
On a aussi bien des films à univers social, des vraies comédies, des films complètement déjantés, des films beaucoup plus arty, des films d'animation. Vraiment, je suis assez épatée de voir la diversité.
Le manque de moyens, entre guillemets, pour réaliser des courts-métrages, les pousse à ne pas avoir des décors de dingue, des costumes historiques, par exemple. On ne peut pas faire de reconstitution. C'est généralement des choses qui se passent d'une manière très contemporaine.
Et avec, mais je pense que le court-métrage, c'est
objets de notre vie quotidienne.
C'est comme les longs-métrages. Il y a une économie du court-métrage et il y a des courts-métrages qui ont vraiment des moyens et d'autres qui n'en ont pas du tout. Mais on peut faire des bons films même sans avoir... Après, c'est vrai que si on s'attaque à un film d'époque...
C'est plus compliqué.
Vous avez souvent été comédienne de court-métrage pour justement mettre le pied à l'étrier de certains réalisateurs.
Pas très souvent, mais je l'ai fait plusieurs fois, notamment avec une grande amie à moi qui s'appelle Daisy Sadler, qui a d'ailleurs eu son deuxième court-métrage qui était sélectionné à Clermont-Ferrand. Donc j'ai joué dans son premier court-métrage. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et c'est toujours bénévole, les acteurs qui jouent dans les courts-métrages.
Oh non,
des
non,
fois
pas
il peut y avoir
tout.
Un petit budget.
Bon, c'est pas grand chose, mais
ouais. Symboliquement,
mais
il y a
en général, le réalisateur, les producteurs essayent de faire en sorte que tout le monde soit plus ou moins payé.
Parce que ce que dit Stéphane Fenkino, ça, il dit à chaque fois c'est bénévole.
Mais lâchez-le, ouais, Stéphane. La 13e édition commence aujourd'hui, ce Paris-Court devant Île-de-France, festival du court-métrage. C'est à la Bibliothèque nationale de France et c'est ouvert au public. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Et c'est important de le préciser. C'est pas gratuit, c'est ouvert au public. C'est Daniel Mora.
Quoi ? Ça, c'est du cadeau. Le pape vient de recevoir une bagnole. Oui, mais attention, pas n'importe quelle voiture. Une Lamborghini.
Waouh.
Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Lamborghini, ben voilà, à côté de la Lamborghini, la Ferrari, c'est une trottinette. Voilà, en gros. Hein. Ouais, une Lamborghini, ça, c'est de la papa mobile. 200 000 euros. C'est l'air de Nagui. 610 chevaux. En gros, les écuries de Mohamed VI. 0 à 100 km heure en 3 secondes. 3. Vitesse de pointe, 325 km heure. Consommation, 13 litres au 100. Elle est blanche, bien sûr, avec un fin liseré jaune sur le capot. Les couleurs du Vatican. Alors, la voiture est destinée à une vente aux enchères pour financer des projets caritatifs. Ok. Enfin, ok. S'il n'est pas d'accord, le pape, après tout, c'est sa caisse. Hein. C'est vrai. Il fait ce qu'il veut. Il en a peut-être marre de sa voiture à bulles qui atteint péniblement les 30 km heure en descente. Non, moi, je vous le dis. Il va peut-être la vendre, mais je suis sûr qu'il va quand même se payer du bon temps. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Dans ce rêve, je suis en Italie, quelque part sur la côte. Je suis à Graziella, elle est sublime. Nous sommes à une terrasse d'un café où nous dégustons un délicieux cappuccino Malibu. Je suis... Oui, j'ai bon goût. Je suis à deux doigts de l'emmener dans l'hôtel qui nous fait face, de l'autre côté de la place, quand d'un seul coup... C'est quoi ce boucan ? Nom de Dieu, le pape. Oh, le pape au volant de sa Lamborghini blanche. Il baisse la vitre et il attaque, mais direct sur Graziella. Eh, hey, ciao, bella. Tu veux faire un tour de ma caisse ?
Oh, je n'oserais pas.
Ma Simone, on va faire les cons sur l'autoroute. Ça monte à 325, tu vas kiffer.
Oh, très sympère, je ne sais pas si je dois.
On s'en fout, on s'amuse. Allez, viens, j'ai de la coke dans la boîte à gants. On va s'éclater, c'est de la bonne, je l'ai acheté à Guillermo Buiz.
Mais je suis avec Daniel Morin, j'ai déjà beaucoup de chance.
Mais qu'est-ce que tu crois avec lui ? C'est un tocard.
Oui, je sais, mais je suis avec lui pour qu'il me présente Nagui.
Nagui, l'animateur au micro-pénis ?
Ah bon ?
Si, piccolo, piccolissimo cazzo.
Bon, bah ok, j'arrive.
Allez, Daniel, sors en coune, hein, et comme on dit chez les petits zizi, ciao, ciao, ciao ! Oh, le fumier ! Et c'est ça, casse-toi ! Oh, je sors de mon rêve hyper énervé. Pour être sûr de me rendormir et fêter en même temps l'arrivée aujourd'hui, les amis, du Beaujolais nouveau, je me fais ma tisane, pinard Malibu, ça marche, je me rendors illico. Cette fois, pas de pape à l'horizon, je suis chez moi et j'écoute d'une oreille distraite les programmes de France Inter. Ah, c'est l'heure de Boomerang.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est rouge, il pique la langue, il brûle parfois les yeux, il déchausse les dents. Cette année, il ne sent pas le fruit, mais comme un petit arrière-goût de caca. Avant l'émission, j'ai bu 4 bouteilles. Aujourd'hui, je reçois une caisse de Beaujolais nouveau. Ça va, Beaujolais ? Tu ne me réponds pas, c'est ton choix. Je respecte. Demain, les amis...
Ça va, j'ai rien.
Eh oui, apparemment, Augustin était tellement sous comme une vache polonaise, il a perdu l'équilibre, il est passé au travers d'une baie vitrée. Heureusement, il est tombé pile poil sur un enfant obèse, ce qui lui a sauvé la vie. À demain.
Merci, Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Stevie Wonder, le voici avec We Can Work It Out. C'est dans la bande originale de votre matinée sur France Inter. Nous avons Marie Gillin en invité jusqu'à midi et demi pour parler de ce festival de courts-métrages Paris Court Devant Île-de-France.
You're saying you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
Work It Out, Stevie Wonder dans la bande originale sur Inter avec Marie Gillin qui est notre invitée. Alors Marie, vous êtes, oui, présidente de ce 13e festival de court-métrage Paris Court Devant Île-de-France, mais vous continuez votre métier, brillant métier de comédienne. Vous tournez actuellement la série Speakerine, c'est ça ?
Oui, pour France 2. France 2, réalisé par Laurent Tuel avec Guillaume de Tonquédec notamment. Et j'ai aussi fait une mini-série réalisée par Pierre Aknin dans laquelle joue Samy Bouajila qui s'appelle Souviens-toi.
Ça, c'est
et
pour
qui
M6.
Sera diffusée voilà, début d'année 2018 sur M6.
Plus triste cette fois-ci, c'est une petite fille qui a survécu à.
Oh bah c'est un vrai thriller, oui, c'est un vrai thriller.
De sa famille. Des projets au théâtre, au cinéma, on en parlait tout à l'heure de votre.
C'est en cours. Alors, voilà, c'est un.
Vous avez envie de quoi ?
Moi, j'ai envie de plein de choses. J'ai bien envie de refaire du théâtre. J'ai aussi envie, pourquoi pas, un de ces quatre, d'être dans un univers un peu plus de comédie.
D'accord.
Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un projet drôle, quoi.
Ce qu'on retrouve dans votre court-métrage aussi, votre sens de l'humour, parce que même s'il y a cette tension du casting dont on a parlé tout à l'heure et de ce mépris du genre humain, il y a quand même de la vanne, heureusement, dans ce court-métrage. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? C'est la direction d'acteur ? C'est la technique ? C'est le montage ? Qu'est-ce qu'il y a de plus
En tout cas, ce que j'ai vraiment découvert et qui m'a passionné, passionnée, c'est la, toute la partie post-production, que je ne connais pas du tout en tant que comédienne, parce qu'à part faire de la post-synchro, toute l'étape du montage, du mixage du son, etc., c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
Et même la manière dont on peut tricher avec différentes prises de différents angles.
Bah, tricher, mais surtout retravailler le film entièrement et rentrer dans une matière qui est la matière des images, et puis trouver des solutions au montage quand on n'a pas forcément assez de plans, trouver le bon rythme, le son aussi.
En tout cas, il est réussi, la musique. Ce court-métrage. On vous a tout dit depuis le début, à part nos félicitations pour Timing. Des excuses, cette fois-ci, à présenter Daniel Morin.
Absolument. Déjà, désolé pour Tom Villa. Oui, Tom qui attend toujours la réponse pour le casting qu'il a passé. Alors, mon pote, moi, je l'ai eu, la réponse tout à l'heure à la pause. Je te donne un indice. Changement de carrière. Désolé pour tous les auteurs de théâtre qui nous écoutent et qui se sont blessés physiquement en écoutant les conseils de Marie. Comment vous dire, les gars, écrire avec les couilles, c'était juste ce que j'appellerais une métaphore poétique. On est sur la terre quand même, merde, vous exagérez. Et désolé pour les millions d'auditeurs, dont Stéphane Fuenquinos, qui nous écoute tous les jours et qui, comme le dit Nagui en off, doit vraiment avoir une sacrée vie de merde pour être dispo à cette heure-là. Et ben moi, je suis pas comme lui, moi je vous aime tous.
Leïla, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, pardon. Je me demandais pour quand c'était Speakerine sur France 2, cette série.
On le verra quand?
Ah ben, ça sera, j'espère, en...
2018?
Oui,
l'année prochaine.
En tout cas, automne 2018, ça serait pas mal.
D'accord, à la rentrée. Merci Marie-Gélin, bon festival.
Merci.
Amusez-vous bien. Demain, nous recevrons Raphaël Persona pour Vous n'aurez pas ma haine, un texte qu'il porte au théâtre du Rond-Point.
C'est pas le meilleur.
Si c'est le meilleur, il sera là demain.